Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama, une émission évidemment consacrée au cinéma, avec de quoi s'amuser, des blind tests, mais surtout des chroniques. Bonjour Guillaume, bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors aujourd'hui pour toi Manu, deux films.
Oui, une reprise, un film qui s'appelle Maestro di Vigevano de Elio Petri, et puis un long métrage d'animation Ailleurs.
Qui a la particularité d'être sans dialogue.
Sans dialogue, oui.
Et puis toi, il y a des dialogues dans le film que tu as vu, Guillaume.
Oui, c'est Les Apparences de Marc Fitoussi.
Et ce film eh bien, sera l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Karine Viard, puisqu'elle est dans ce film. Marine, qui n'est toujours pas avec nous, mais est un peu notre envoyée spéciale dans la capitale, ce qui lui permet de voir des films eh bien, en avant-première ou en projection presse, eh bien, elle a vu le film Ondine de Christian Petzold, qui a remporté de nombreux prix au dernier festival de Berlin. Quant à moi, je commence avec Éléonore de Amro Hamzaoui, qui est le frère de la chroniqueuse Nora Hamzaoui.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot. T'as voulu devenir écrivain? Tu t'es planté.
Savoir faire un constat d'échec, parfois, si t'avais du talent, ça saurait maintenant.
J'ai toujours pensé que les comédies qui faisaient leur promotion avec une abondance de bandes-annonces et autres teasers étaient celles qui n'avançaient pas sûrement, comme pour indiquer qu'on avait affaire à une variation sur le genre, et ça ne coupe pas avec Éléonore, comédie faussement romantique écrite par Amro Hamzaoui, le frère de l'humoriste et chroniqueuse Nora Hamzaoui, à qui il a donné eh bien, le premier rôle, celui d'Éléonore. Alors on est en face d'une parisienne, jeune trentenaire, qui va de plan cul en plan cul, qui est sans boulot pour avoir voulu se lancer dans une carrière d'écrivain qui ne lui a pour ainsi dire rien apporter, sinon les sarcasmes de sa sœur. Mais Éléonore va subir de plus en plus la pression de sa famille, soit sa mère et sa sœur, qui vont lui trouver alors un boulot et ce qui pourrait devenir un mari. Vous voyez la comédie, hein. Éléonore va se retrouver dans une peau qui n'est plus tout à fait la sienne, on va lui demander de ressembler, y compris physiquement, à une autre femme, hein. Rentrer dans de nouveaux vêtements, préférer la robe au jean, une femme idéalisée, et elle va aussi eh bien, se retrouver dans des situations incommodes dont elle finira par tirer parti, sans que le chemin soit facile pour elle, et il faut bien le dire pour le spectateur.
Vous pensez être une psychopathe?
Un vrai cas social.
C'est sophistiqué et audacieuse. Féline.
Féline. Ça veut rien dire, Féline, c'est juste une façon polie de dire cochonne.
Ce dont j'ai besoin, c'est que tu réagisses.
Ça va pas, non?
Mais vous faites pas chier!
Et que tu te mettes enfin à te comporter comme une adulte.
Vous croyez pas devenir d'elle, maman, c'est comme pour les tox et les alcoolos. Faut que ça vienne de l'intérieur.
Tous les éléments se posent les uns après les autres dans un scénario trop prévisible. Mère et sœur ne voient les autres et la vie que du point de vue de l'argent, tandis qu'Éléonore, qui marche dans le caca de son chat dès la première séquence, eh bien, ne se pose pas la question. Son patron est misogyne, mais à peine. Hein. D'abord fermé, il va s'ouvrir. Son amant, lui, est friqué, bienveillant, mais ça ne fait pas tout hein, pour Éléonore. Alors, elle s'avance, elle s'empêtre parfois, on la suit, mais avec peine. Alors, on ne peut pas dire que le thème soit nouveau, celui de l'acceptation de soi et du regard des autres. C'est pourquoi eh bien, un scénario moins téléguidé et une mise en scène plus audacieuse auraient pu changer la donne. Éléonore, qui est d'abord une vraie cruche, qui va à un entretien d'embauche, alors sans savoir où elle met les pieds, j'imagine que vous faites tout ça. Hein. Donc, eh bien, elle apprend eh bien, qu'elle fait un entretien dans une boîte d'édition de livres érotiques, ce qui n'est pas rien quand même. Hein, voilà. Mais cet élément n'intervient que pour l'entretien d'embauche, curieuse manière de ne pas vouloir étirer son film, dans lequel Éléonore est évidemment de tous les plans. Alors, c'est surtout ce personnage, évidemment, qui intéresse le réalisateur, même si quelques autres personnages secondaires parviennent à exister, ce qui est souvent essentiel pour une comédie.
Un autre ?
Ah non, vaut mieux pas parce que je m'étais promise d'arrêter de boire en semaine.
Pourquoi ? Vous êtes alcoolique ?
J'adore boire, hein. C'est comme ça, qu'est-ce que je vous dise ? C'est juste que c'est pas très bon pour la santé.
Vous n'êtes pas au chouquel et au quinoa comme toutes les filles de votre âge.
Bon là, c'est un dialogue avec son patron. Alors, en voulant transformer un personnage pour lui faire apprendre l'acceptation de soi, le réalisateur, qui est aussi le scénariste, avance sans doute avec trop de délicatesse. La comédie est douce, un peu amère, mais finit surtout par s'enliser, passer les quelques séquences où les personnages se font des déclarations ou les scènes purement comiques, mais qui ne sont pas si nombreuses malgré le potentiel de Nora Hamzaoui. L'ensemble du casting est sans faute, la mère galériste, la bouche toujours pincée, la sœur condescendante, le patron attachant car paumé en amour et le psy au divan incroyablement grand qui nous aide à démêler les enjeux et les revers de la normalité. Et c'est à peu près tout.
Je suis pas quelqu'un de facile.
S'inquiétez pas, j'ai le cuir épais.
Il y a un truc que je ne supporte pas, par exemple, mais alors pas du tout, ce sont les fautes d'orthographe.
Moi pareil, en plus j'en fais pas des fautes d'orthographe.
Même dans les mails, ça me rend dingue.
Je comprends tout à fait, je suis exactement pareil. Les fautes grammaticales, les fautes sur le pluriel, les festivals, les festivaux, on sait jamais, c'est lequel des... Pardon.
Il manque à ce film, compte tenu de son sujet et de son interprète, un peu plus de fantaisie. Julie Delpy sait faire des comédies qui nous emmènent ailleurs que sur des terres balisées où le casting ne fait pas l'essentiel du film. Cela dit, on ne passe pas un mauvais moment, mais peu de questionnements viennent quand même nous embarrasser. À noter que le réalisateur n'est pas seulement le frère d'eux, il a aussi un petit CV au niveau du cinéma. Il a été l'assistant de Michel Gondry, notamment, sur un film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tourné aux États-Unis. Et puis quand il est revenu en France, il a fait le scénario de 20 ans d'écart. Voilà, c'est ça qui l'a fait connaître, et c'est à ce moment-là qu'il a eu envie de faire son premier film. Alors peut-être que ça aurait été bien aussi de sortir du carcan familial, parce qu'il a aussi dans ce film l'idée de raconter ce que lui a vécu. Éléonore est en salle depuis le 23 septembre. Après Camilla Jordana la semaine dernière, c'est au tour de Benjamin Biolay d'être à l'affiche des apparences avec Karine Diard. L'occasion de jouer à un blind test. Mais Guillaume, tu vas avant tout nous parler de ce film Les apparences de Marc Fitoussi.
Nous, on forme une communauté, on est soudés. Et si nous arrivait quelque chose, on s'en parlerait, on s'entraiderait.
Vous êtes encore pour 2 ans
à Vienne?
Ben oui.
Mais c'est formidable.
On est très contents.
Oh, mais je suis folle de joie.
Comment fait-on pour gérer tant de bonheur? On arrive à garder les pieds sur terre?
Tromper sa femme quand on est pauvre, c'est déjà pas coton. Alors imaginez ce que c'est quand on est riche. Ce dilemme augmenté, c'est ce dans quoi Marc Fitoussi nous embarque dans Les apparences. À Vienne, dans la communauté française petite mais ô combien privilégiée de couples aisés, Ève se meurt d'amour pour son mari Henri, mais commence à se dire que les draps froids, ça cache peut-être quelque chose. Sensible à quelques micro-événements remarqués qui tranchent avec le quotidien plutôt morne, elle va assembler le tout et la somme de toutes ses peurs va vite s'incarner en l'institutrice de leur jeune enfant. Les soupçons se révèlent être une réalité. Le ciel lui tombe sur la tête, mais Ève va vite se ressaisir pour tenter de reconquérir son mari. Et pour cela, tous les coups sont permis, même l'utilisation fallacieuse des nouvelles technologies.
T'es encore debout ?
Bah oui, comme tu vois.
Chérie, c'est pas la première fois que je suis accaparé par le train.
Ah, c'est sûr. Tu te sens très loin de moi. On fait des trucs chacun de notre côté.
Je suis là, je suis près de toi.
T'es sûr qu'elle se doute pas d'un truc, ta femme ?
Tous les parents d'élèves ont reçu un mail de la maîtresse de Malo qui ne nous était pas du tout destinée. Ça veut dire qu'elle entretient une liaison avec un papa de l'école.
Je me demande bien qui sera l'heureux élu.
Tu sais, Malo, jamais on ne se séparera avec ton père.
À première vue, le thème de la tromperie n'est pas original pour un sou. C'est pourquoi ce sou va se voir réévalué par son réalisateur, aussi scénariste, pour donner du piquant à son récit. Le milieu dans lequel se déroule l'histoire est loin d'être anodin. Les protagonistes des apparences baignent tous dans l'argent qu'ils proviennent de leur poche, qu'ils convoitent ou bien dont ils sont les victimes. Vous avez donc bien compris les deux premiers sens du titre. L'apparent bonheur de certains hommes et femmes unis par le mariage et l'importance de l'image qui découle du rang social. Quelque part, l'argent remet tout le monde sur le même pied d'égalité. Ils le souhaitent tous et tout ce monde est avide de possession, une possession qui, justement, est en train de glisser des mains de l'héroïne. Cependant, l'argent n'achète pas le bonheur et entretient même les façades plus ou moins glorieuses des personnages. À cause de lui, les riches veulent rester riches et les riches fuient les pauvres. Ève elle-même fuit les signes de sa condition d'avant-mariage, évoquée régulièrement par sa mère, elle-même représentante d'une classe plus modeste qui n'en a que faire de ses apparences. Les riches s'enferment chez eux, s'auto-alimentent, cultivent cette richesse des comptes en banque et des esprits, à l'abri, pensent-ils, des tentations du bas peuple. Manque de peau, si l'argent n'a pas d'odeur, il n'a pas non plus aussi de marque de culotte et on peut être cocu, que l'on paie l'ISF ou qu'on touche le RSA. Le problème que l'on a évoqué plus tôt, c'est que si on se sépare facilement de l'être plus aimé lorsqu'on est pauvre, c'est plus compliqué quand on est riche, car sa place dans l'échelle sociale et sa réputation peut en prendre un sacré coup. Coup d'un soir, défouloir. Mais relation extra-conjugale, liaison fatale.
Y'a que ça qui t'intéresse en fait ? Le prestige, les apparences ?
Le terme même de tromperie est particulièrement intéressant derrière le voile des apparences. Le fait de se tromper est lui aussi à double sens, que l'on vous laisse bien sûr découvrir au fil des multiples rebondissements de l'intrigue. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours lorsqu'on est en difficulté ou en situation de difficulté que l'on découvre réellement qui on est et jusqu'où on peut aller pour défendre sa personne et ses intérêts. La nouvelle Ève naîtra littéralement de son Adam et, à cause du geste initial de ce dernier, vont s'enchaîner des jeux de miroirs qui vont tous finir par éclater au grand jour et en éclats. Alors, dit comme ça, ça a l'air assez excitant, mais le problème est que le film chabrolien que nous vend l'affiche ne l'est pas tant que ça. Dans la grande première partie de carrière du regretté Claude, les bourgeois sont vivants, charnus et hauts en couleur. Dans celui des apparences, ils sont désespérants de vide et d'ennui, et il est bien difficile de s'intéresser à eux tant leur image même manque de relief. De quoi se demander ce qu'il y a d'enviable à vouloir sauvegarder quand la menace d'un naufrage vient les ébranler. Au milieu de ces statues de cire, on note en particulier une Pascale Arbiot parfaite en mégère tirée à quatre épingles qui n'a que le mépris des autres qui danse dans ses yeux. Elle est d'autant plus marquante qu'on ne peut que se rappeler ému de ses compositions drôles, touchantes et humanistes pour son ancien compagnon Artus de Pernguerne, le génial réalisateur de la meilleure comédie française de ces 20 dernières années à mon goût, hein, Grégoire Moulin contre l'humanité, et qui a été emporté trop tôt par la maladie. Enfin, impossible de ne pas penser à Apparence de Robert Zemeckis, cette fois sorti il y a tout juste 20 ans. Outre le titre similaire et les divers degrés de lecture auxquels il nous convie, ils ont aussi en commun ce même tronc avec une femme qui découvre que son mari la trompe sous fond d'enquête. Ici, pas d'influence chabrolienne mais hitchcockienne, avec un dernier quart d'heure qui se permet de supputer ce que le maître du suspense aurait fait en termes de mise en scène s'il avait bénéficié des technologies modernes. Même si le spectacle reste honorable, en dépit de quelques raccourcis scénaristiques parfois un peu gênants, on aurait aimé que Marc Fitoussi en fasse de même en ce qui concerne la sienne.
Donc plus Hitchcock que Chabrol, quand même. Ce film est en salle depuis le 23 septembre, alors il nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Karine Viard. Plus de 30 ans de carrière, une voix, un physique. Elle fait ses premières apparitions en 89 dans Tati Daniel et l'année suivante dans Délicatessen, c'est la femme du boucher évidemment. Alors elle a 3 Césars, si j'ai bien compté. Un César en 2000, celui de la meilleure actrice pour Les cœurs en 2003, celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Embrasser qui vous voudrez, et puis en 2019 encore un César de meilleure actrice dans un second rôle pour Les chatouilles. Alors elle a joué dans au moins 14 films ayant eu plus d'un million d'entrées, bon, ce qui aide à durer dans le métier et ce qui fait aussi que c'est une actrice qu'on peut considérer comme populaire. Donc ça veut dire aussi que normalement, eh bien, dans les 5 extraits que vous allez entendre, vous allez forcément aller au moins trouver un titre, si ce n'est les 5 premiers extraits.
Vas-y, vas-y, développe.
Non mais rien, je te dis.
Est-ce que t'attends un coup de fil?
De toute façon, je connais ce genre de mec. Tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Bah, je suis désolée, moi je suis généreuse, hein. J'y peux rien, je suis faite comme ça. Hein, alors si ça leur fait peur, eh ben tant pis pour eux, hein, c'est leur problème. C'est dingue quand même, on dirait que la tendresse, elle les agresse. Et après, tu t'étonnes qu'il y ait des guerres partout dans le monde. Je veux dire, je vois pas le mal qu'il y a à laisser un petit message pour dire que t'as passé une très bonne soirée. C'est de la politesse, c'est la moindre des choses.
Qu'il parle, hein?
Je crois qu'il s'appelle Sherman ou quelque chose comme ça.
Tout c'était pas si génial. J'ai parlé tout le temps, il a dû dire 2 phrases.
Alors, ça a été trouvé, Manu.
C'est Reine d'un jour, je sais plus qui c'est pas Marion Vernou.
Mais c'est ça. Tout à fait. Film de 2001 avec aussi Hélène Filière, Victor Lanoux, Jane Birkin, Sergi Lopez et le casting est beaucoup plus long. Hein. Film choral qui raconte les aventures entrecroisées de différents personnages et Karine Viard est Tortance Lassalle, une orthophoniste qui profite d'un déplacement de son mari pour passer la soirée avec son amant. Encore une histoire hein, de coucherie. Mais celui-ci a perdu son téléphone portable et il est injoignable. 280 000 entrées en France pour ce film. Deuxième extrait.
Avant, je me souviens, il y avait les Normandes. Moi, j'adorais les Normandes. Et c'était des travailleuses, les Normandes, comme des Alsaciennes.
Ah bon?
Ah oui, non, mais parce qu'il y a des différences. Hein. Par exemple, si vous prenez une Bretonne, ben vous ne ferez jamais travailler une Bretonne comme vous faites travailler une Normande ou une Alsacienne.
Ils sont plus...
C'était dur à cuire, les Bretonnes, il n'y a rien à en tirer. Ah oui, non, puis je ne vous parle pas des Corses. Enfin bref, tout ça pour vous dire, figurez-vous que j'ai découvert une chose. Mm-hmm. C'est les beurrettes.
Ah oui?
Ben oui, les beurrettes. Oh. J'en ai une là. Oh, Khadija, mais c'est une perle.
Alors oui, c'est vrai, je vous cache pas qu'elles ont du tempérament. Mmh. Enfin, mon vieux, dans le travail, elles sont là, elles sont droites. Bonjour.
Alors ce bonjour est particulièrement notable dans ce film que tu as trouvé, Manu.
C'est Paris de Cédric Lapiche.
Oui, film de 2008, un danseur du Lido qui doit absolument recevoir une greffe de cœur, sans quoi il va mourir. Eh bien, il se met à observer les Parisiens et Parisiennes. Et là, eh bien, c'est la boulangère de son quartier qui est incarnée par Karine Viard. Une grande distribution, hein. Romain Duris, Fabrice Lucchini, Albert Dupontel, François Cluzet, Gilles Lelouch, Zinedine Soualem et Juliette Binoche. Voilà, bon, film qui a fait 1,7 million d'entrées en France. Un nouvel extrait.
En fait, vous vous en foutez. Vous n'aimez pas la peinture. Ou alors comme ça, comme décoration, pour faire joli. Vous avez un goût très commun, ça doit être ça.
Et vous, vous êtes une ironique, une éternelle sceptique.
Non, pas du tout. Je suis pas du tout comme ça.
Vous passez votre temps à dénigrer ce que font les autres sans rien faire de votre vie.
Qu'est-ce que vous en savez? Vous me connaissez?
Et de temps en temps, vous craquez. Alors là, vous prenez des médicaments, vous vous effondrez dans la rue. Et si quelqu'un fait attention à vous, alors là, vous êtes contente. Mais 5 minutes, parce qu'après, vous recommencez, vous ricanez, vous êtes une ricaneuse.
C'est une ricaneuse.
La nouvelle Ève de Catherine Corsini.
Oui.
C'est Catherine Corsini,
oui,
je crois.
Oui, c'est ça. Et c'est un film sorti en 99. Camille est maître nageuse. Elle rencontre un homme marié qu'on entend et qui est prête à tout. Et elle est prête à tout pour garder cet homme au point de devenir une intime de la famille. Mais rien n'est simple, évidemment. 422 000 entrées en France. Tu peux te rattraper, Guillaume, hein, sur ce blind test qui, pour l'instant, eh bien, est plutôt à l'avantage de Manu. Quatrième extrait.
Je fais quoi? Je réponds tout de suite? Félix, toi, une fille te répondrait tout de suite. Tu trouverais pas que ça fait trop désespéré?
Je sais pas, ça dépend de ce que vous voulez.
Ok, je réponds tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je l'invite à dîner demain soir? Non?
Ouais, bonne idée.
Ça fait pas trop? Pas trop direct? Non? Ok. Et je termine par quoi? Je t'embrasse? Non?
Oh bah je veux pas mettre bisous.
Mais quel stress, maman. Il me plaît. Alors oui, je stresse.
Je t'embrasse, c'est très bien.
C'est bien? Ok. Allez, je t'embrasse. Et hop, j'envoie.
Alors, ça n'a pas été trouvé. Alors, c'est un film récent. J'ai voulu le placer parce que celui-ci est récent. Il a flirté avec les 750 000 entrées en France. Mais c'était moi qui l'avais chroniqué dans cette émission. C'est un film de David et Stéphane Foïkinos qui s'intitule « Jalouse ». Et c'est précisément eh bien, ce dont souffre Karine Viard, qui est une professeure de lettres divorcée. Alors, elle devient jalouse d'abord de sa fille, puis de ses amis et de ses collègues. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très maladif. C'était plutôt bien enlevé comme comédie. Allez, dernier extrait de ce blind test.
Je lui avais à peine effleuré le téton. Il se met à bander, mais comme un âne.
Oula, bien, je me dis, bon, bah c'est parti, je vais avoir mon compte. Je reprends sa bite, une belle bite, enfin, normale, mais bien. Le temps que je sorte le préservatif de mon sac, pfff, il a tout lâché. Ah, ce putain d'Alain, je l'adore. Non, il m'énerve, hein. Mais je l'adore. Avec lui, il faut ruser.
Mais pourquoi tu me racontes cette histoire?
Bah, pour rien, je t'explique d'où vient le vin.
C'est toujours un plaisir. Ça a été trouvé, évidemment, Guillaume. Oui, Arnaud et Jean-Marie Larrieux, film sorti en 2015. Alors là, bon, j'ai pris cet extrait qui était beaucoup plus long parce que c'est à chaque fois des plans séquences où Patty donc, se raconte. Le titre donc, est tiré d'un recueil que deux personnages du film auraient pu écrire pour raconter leur frasque amoureuse et sexuelle. Mais donc, c'est surtout l'histoire d'une Parisienne qui débarque dans un village de l'Aude pour l'enterrement de sa mère. Mais le corps a disparu et voilà, et cette Parisienne rencontre Patty, donc interprétée par Karine Viard, qui a plein d'histoires à raconter. Donc il y a Karine Viard, Isabelle Carré et Mathilde Monnier hein, dans ce film, la chorégraphe qui règle actuellement les parties dansées de la comédie musicale que les frères Larrieux préparent actuellement. Voilà, ça, j'ai appris ça dans le sud-ouest de la France. 21 nuits avec Patty, film que l'ensemble de l'équipe recommande, a fait 338 000 entrées en France. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, donc rattrapez-vous. Ainsi s'achève ce blind test concernant la filmographie de Karine Viard. Et maintenant, eh bien, nous entrons dans la partie film animé entre film initiatique et récit d'aventure. C'est ailleurs. On se contente de la musique, hein, parce que c'est un film sans dialogue.
Et oui, évidemment. Ouais. Alors ailleurs, c'est un miracle, je dirais. Même un film miraculeux, hein, conçu dans des conditions exceptionnelles. Alors plus encore pour un film d'animation. Hein. Tourné en 3D avec un budget dérisoire sur une durée de 3 ans et demi, cette proposition unique est l'offre totale au sens littéral d'un jeune artiste letton de 26 ans qui s'appelle Gints Zibalodis. Alors, puisqu'il a tout conçu de A à Z, alors ce qui peut paraître hallucinant au vu du résultat et qui donne en plus à la fin le générique certainement le plus court de l'histoire du cinéma, ou un des plus courts, puisqu'il y a uniquement son nom. Alors, entièrement muet, ailleurs se regarde comme une fuite en avant avec une histoire rectiligne, très simple. Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d'avion. Il a atterri sur une île aussi inconnue que fascinante. Accompagné par un petit poussin blessé qui l'a guéri, il tente de traverser l'île pour retrouver la civilisation quand une mystérieuse créature se met à le poursuivre. Alors, loin d'être un objet abstrait comme ça, dénué de dramaturgie, centré sur uniquement une dimension expérimentale, Ailleurs est au contraire très incarné, physique, une sorte de survival pour enfants, doublé d'une allégorie passionnante sur la vie et la mort, un voyage initiatique. Alors, le jeune garçon lutte désespérément pour survivre dans un espace mental hanté par ses peurs et désirs, matérialisé d'un côté par une forme monstrueuse tout droit sortie d'un cauchemar, et de l'autre par une île foisonnante conjuguant toutes les formes de paysages et de vie terrestre présente ou passée, puisqu'on y voit aussi des mammouths lors d'un moment assez onirique. Alors, l'imaginaire visionnaire de Gints Zibalodis transcende l'absence de moyens. Il confère à son projet une ampleur et un souffle épique au service d'un dessin d'une pureté graphique voisine de certaines bandes dessinées de la ligne claire. La 3D permet aussi au réalisateur de jouer sur les profondeurs de champ au service d'une mise en scène sophistiquée, où la caméra, comme en apesanteur, elle virevolte, transporte le spectateur dans un voyage onirique. Alors, quant à la musique, que le réalisateur compose également, les sonorités électroniques et les boucles mélodiques se mêlent au vent qui souffle, au crépitement des arbres, au cri des animaux, puis au bruit des vagues de l'océan. Alors, le travail colossal sur le son crée une atmosphère immersive et hypnotique qui nous fait oublier instantanément l'absence totale de dialogue, un parti pris totalement en adéquation avec ce conte universel qui a le grand mérite aussi de ne pas laisser le jeune public en marge. Ce dernier risque d'y trouver quand même son compte tant les péripéties sont nombreuses et le suspense assez intense marqué par un antagoniste, ou plutôt une sorte de silhouette monstrueuse, évoquant autant le golem d'Europe centrale que les formes un peu gélatineuses, inquiétantes des films de Miyazaki ou de Satoshi Kon. Alors, stupéfiant de grâce et d'élégance, Ailleurs laisse notre esprit vagabonder ailleurs au gré des interprétations les plus farfelues sans jamais perdre de vue l'essentiel, car l'intrigue linéaire et simple à appréhender ne se résume pas à sa seule métaphore. D'une lutte acharnée de la survie face à un démon, elle regorge aussi de symboles, de signes, d'images poétiques dans une perspective animiste et écologique proche des aspirations artistiques des génies de l'animation japonaise. Alors, découpé en 4 chapitres, Ailleurs, extension d'ailleurs à la base d'un court-métrage primé dans de nombreux festivals qui s'appelait Oasis, impressionne par la radicalité d'un projet qui dépasse le simple exercice de style et la richesse de la forme, alors tant d'un point de vue graphique que narratif. Donc je conseille fortement ce que je peux considérer comme une sorte d'odyssée surnaturelle et existentielle qui peut s'adresser aux petits puis aux plus grands également.
C'est en salle Ailleurs, dans une 50aine de salles sur le territoire français. Donc voilà, eh bien, allez scruter votre cinéma. Film également en salle depuis le 23 septembre, c'est Ondine, réalisé par Christian Petzold, qui s'empare d'un mythe surtout germanique.
Ondine.
Les ondines sont, dans la mythologie germanique, des sortes de sirènes d'eau douce qui s'apparentent le plus souvent à des génies malicieux d'une grande beauté, tantôt convoitées par les hommes, tantôt considérées comme une menace pour ceux qui vivent sur Terre. Alors, Ondine, c'est également une dresseuse de Pokémon dans le jeu vidéo éponyme, mais cela n'a rien à voir avec notre sujet. Ondine, dans ce nouveau film de Christian Petzold, est une jeune femme du 21e siècle, historienne et conférencière, spécialiste de l'urbanisme berlinois, que son amant abandonne un jour pour une autre. Ainsi que le dit le mythe, Ondine doit donc le tuer, ou plus précisément, le noyer dans ses larmes. Mais elle rencontre bientôt Christophe, un scaphandrier, habitué des missions dangereuses dans les profondeurs des lacs. Ensemble, ils vivent une passion amoureuse et aquatique, explorant les abysses et leurs sentiments. jusqu'au jour où Ondine recroise son ancien amant et se rappelle de la promesse mortelle qu'elle lui avait faite.
So glücklich wie ich noch nie glücklich war. Du kannst nicht gehen.
Le réalisateur Christian Petzold réussit à créer avec Ondine un film à la lisière du fantastique et du drame intimiste en instaurant une atmosphère aussi féerique qu'inquiétante, une atmosphère somme toute assez unique qui justifie largement l'Ours d'argent et le prix de la critique reçu au Festival de Berlin cette année, accompagné d'une récompense pour l'actrice Paula Beer. Découverte par le public français dans France, aux côtés de Pierre Niney, la jeune comédienne poursuit une carrière germano-française en apparaissant récemment dans Le Chant du Loup aux côtés d'une distribution française et outre-Rhin, en multipliant les projets sur petit et grand écran. Dans Ondine, elle forme un couple mémorable avec Franz Rogowski, sorte de Joachim Phoenix allemand à l'élocution si particulière, tandis que la ville de Berlin, avec son évolution, son architecture, son histoire et ses secrets, s'impose elle aussi comme un personnage essentiel de l'histoire. À des scènes en plein cœur de la ville s'opposent des scènes aquatiques empreintes de féerie, tournées grâce à des moyens importants puisque toutes ces scènes ont été intégralement filmées sous l'eau, dans des décors créés spécialement pour le film. Cette relecture de Ondine nous en livre une version moderne, ambiguë, dépeignant une jeune femme dévorante mais également dévorée par la passion et autant en quête d'absolu que l'est son alter ego masculin, affranchi des codes et des frontières de genre, assumant pleinement son romantisme échevelé. Ondine est un film, il est vrai, un poil trop cérébral mais dont la posture très sérieuse est finalement sauvée par son duo de comédiens à la complicité évidente.
Ondine de Christian Petzold est en salle depuis le 23 septembre. C'est aussi le jour qui a été choisi pour la ressortie d'un film d'Elio Petri dont tu vas nous parler, Manu.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Alors 57 ans après sa réalisation, hein, Il Maestro di Vigevano, il n'a jamais été traduit en français. Hein.
Bah, le maître de...
Le maître de Vigevano, voilà. Risque de paraître, non pas daté, mais quelque peu anachronique, hein, assez loin des préoccupations contemporaines que peut rencontrer un instituteur d'aujourd'hui, un professeur des écoles, même en milieu rural. Alors pour apprécier pleinement le film de Elio Petri, il faut se replonger dans le contexte de l'Italie du début des années 60, alors en plein boom économique. Les valeurs morales et sociales ne font plus le poids face au consumérisme ambiant. La société de consommation explose dans un pays qui tente d'oublier une histoire récente encore marquée par le fascisme. Au sein de cette situation, que vaut la petite vie d'un instituteur, Antonio, d'une petite ville lombarde, hein, spécialisée dans la fabrique de chaussures. Il ne possède plus l'aura de jadis. Son savoir n'intéresse plus personne. Son salaire médiocre désole sa femme qui rêve d'une existence plus opulente, peuplée de belles robes et de bijoux, à l'image de celles qui ont su profiter de l'explosion industrielle à Vigevano. Alors Antonio refuse de capituler, de quitter son emploi, pourtant, et c'est vrai, moins payé qu'un simple ouvrier d'usine. Mais un jour, sa femme trouve une place d'employé dans l'usine. Il le vit comme un affront et une honte. Son système de valeurs s'effondre. Alors pour surmonter ce choc, il va devoir se remettre en question. Alors d'un strict point de vue historique, le film met en lumière à quel point le métier d'enseignant fut dévalorisé pendant les années 60. Ce n'est pas le seul intérêt de cette adaptation d'un roman populaire de Lucio Mastronardi qui possède un ton hybride, brocardant à la fois l'arrogance et l'intolérance d'un lettré issu de la vieille école, soumis à une pensée figée et aussi la modernité économique comme salut d'un pays en plein développement dont la nouvelle religion serait l'argent. Alors après L'Assassin et Les Jours Comptés, Elio Petri change de registre, laisse de côté les drames existentiels pour s'aventurer du côté de la comédie satirique, de la farce dans la lignée des films de Risi ou de Monicelli. La présence du génial Alberto Sordi, certainement l'un des plus grands acteurs italiens et pas le plus connu pourtant, oriente naturellement le film du côté de la bouffonnerie, du burlesque excentrique. Mais paradoxalement, Elio Petri s'avère parfois mal à l'aise avec le genre pur. Hein. Lui qui a toujours disséminé pourtant dans ses œuvres les plus sombres un humour noir jubilatoire, il ne peut se défaire de ses obsessions, de son regard caustique sur le monde et particulièrement l'Italie. Le nihilisme rageur du cinéaste, son pessimisme politique, ne s'accorde pas toujours avec les ambitions de légèreté. Alors il en résulte l'impression de voir parfois deux films en un, l'un traversé de fulgurances tragiques et l'autre de longues plages pittoresques, souvent drôles. Isolément, toutes les séquences sont réussies, mais il manque une ossature, une dramaturgie solide à l'ensemble, d'où naîtrait une émotion, une empathie envers la galerie de bouffons qui défile à l'écran, alors notamment lorsque le film vire au mélodrame dans le dernier tiers. Alors on sort un peu frustré de cette satire au vitriol dotée de dialogues brillants et bénéficiant bien sûr d'une distribution parfaite jusque dans les moindres seconds rôles. Alors Elio Petri affine pourtant son esthétique avec son noir et blanc somptueux, ses brusques mouvements de caméra balayant l'espace avec une aisance confondante, ses plans larges superbes alternant avec une série de cadrages inventifs. Alors dès son troisième long métrage, donc, il continue ses expérimentations visuelles à l'état encore embryonnaire. Toutefois, ce n'est pas encore du niveau de son chef-d'œuvre Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Alors il continue donc ses inclinaisons passionnantes vers un maniérisme assumé, anticipant l'arrivée de la jeune génération de la fin des années 60, début 70, comme Bertolucci, des gens comme Bellocchio ou encore Giulio Chesti. Et cerise sur le gâteau, la musique de Nino Rota, qui est vraiment, vraiment très, très belle et qui a des petits accents qui nous rappellent 8,5 et voire même Le Parrain parfois.
Donc ce film d'Elio Petri est en ressorti dans une partie des salles françaises.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie!
La semaine prochaine, on aura vu beaucoup de choses, et notamment un documentaire, Manu.
Autonome de François Bégodeau.
Puis un film d'animation et le dernier Kounen.
Oui, Joseph de Aurel et mon cousin de Diane Kounen.
À la semaine prochaine.